parlons un peu des chrétiens de la Galilée. Parce qu'en Galilée vivent 147 000 chrétiens. Pratiquement, les chrétiens se trouvent en Galilée, dans les villages et villes de Galilée. Ils sont considérés par les Israéliens, par les Juifs, comme des Palestiniens. Palestiniens chrétiens, ça n'ajoute pas grand-chose. Parce que lorsqu'il s'agit de confisquer des terres, c'est des terres palestiniennes qu'elles confisquent, peu importe si ça appartient aux musulmans ou aux chrétiens. Pour nos écoles privées, nos écoles chrétiennes, nous n'avons pas le droit de recevoir les mêmes subsides que les autres écoles reçoivent. Il y a les allocations familiales, il y a un tas de problèmes. Et le fait que nous n'avons pas le pouvoir politique, ni le pouvoir économique, eh bien nous sommes à la merci du pouvoir existant qui ne persécute pas les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Mais ils sont palestiniens et ça c'est le point le plus faible.
Est-ce que vous craignez que les chrétiens deviennent de plus en plus minoritaires et que finalement leurs paroles soient de moins en moins prises en compte ?
Je ne sais pas si on a besoin d'être plus minoritaire que nous ne le sommes actuellement, 1,09% de la population. Moins que cela, c'est la disparition. Et c'est un très grand risque. C'est pourquoi nous invitons nos frères chrétiens qui viennent pour visiter les lieux saints, nous les invitons à prendre contact avec les chrétiens locaux. C'est beau le lieu saint, c'est beau les antiquités, mais c'est beaucoup plus saint, S-A-I-N-T, c'est beaucoup plus beau les pierres vivantes qui ne sont pas là juste pour admirer, mais ce sont des chrétiens qui n'ont jamais cessé de raconter l'histoire de leurs compatriotes. Jésus-Christ comme ayant laissé un tombeau vide et un homme ressuscité. Et nous prions tous ces chrétiens de ne pas hésiter à prendre contact avec l'une ou l'autre de nos communautés chrétiennes en Galilée.
Je voulais revenir à votre engagement qui est important dans le domaine éducatif notamment. Alors, outre le centre scolaire Marélias, vous avez lancé également la première université mixte avec des étudiants palestiniens et juifs. Alors, en quoi ces initiatives éducatives sont le signe qu'une paix, finalement, est possible ?
Je crois que par l'éducation, on peut obtenir le moyen le plus efficace pour changer la mentalité. Car dans l'éducation en Israël, ce qui est plus dangereux et plus sensible, c'est l'image que nous donnons à la jeune génération, l'image des autres. Que ce soit l'éducation arabe, quelle image nous donnons des juifs, et dans les écoles juives, quelle image donne-t-il des Palestiniens, des chrétiens et des autres? Et c'est cette image qui, à mon avis, déterminera beaucoup la conduite des jeunes qui seront adultes demain. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la valeur de nos écoles. C'est le moyen le plus fort que nous ayons pour donner une éducation où nous invitons juifs, musulmans, druzes à se joindre à nous, car nous croyons que le plus nos écoles sont chrétiennes, le plus sont attachées à leur église, le plus elles sont ouvertes aux juifs et aux musulmans. Nous avons presque ce sentiment, nous ne pouvons plus vivre sans avoir nos frères juifs et nos frères musulmans avec nous à égalité, comme des partenaires avec qui nous partageons le présent en vue de l'avenir.
En 2007, lors d'une homélie, vous avez comparé la communauté chrétienne de Galilée et celle des apôtres nés dans cette terre à un olivier. Vous disiez que l'apparence en est sèche et noueuse, mais l'arbre est capable de fructifier abondamment à l'arrivée de la bonne saison. Alors, quels sont les fruits ? Est-ce que vous décelez des fruits, des signes d'espérance, malgré toutes ces difficultés ?
Oui, il y a beaucoup de signes d'espérance. Vous savez. Il faut voir globalement la situation. Elle n'est pas positive, elle n'est pas prometteuse. Mais il ne faut pas nous aveugler à la vue globale de la situation. Il faut agir localement. Il y a beaucoup d'amitiés juives palestiniennes à l'intérieur d'Israël. Je crois que le fait que les deux nations ont déjà fait tant de guerres les uns contre les autres, ils sont arrivés à désespérer d'avoir une solution militaire. Qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas de solution militaire ? Il y a la solution humaine. Il y a les relations interconfessionnelle. Je crois qu'il faut mettre plus dans le courant les hommes de religion qui sont ouverts, qui sont tolérants et qui comprennent leur foi comme étant un partage avec les autres qui sont différents.
Alors le 20 février dernier, une quarantaine de chrétiens palestiniens adressaient une lettre au Saint-Père dans laquelle ils exprimaient leur désarroi et l'inquiétude que représente sa prochaine visite en Terre Sainte. Alors comment comprendre cette inquiétude et que pensez-vous personnellement de cette visite du pape Benoît XVI ?
Nous avons toujours envie de voir le Saint-Père le plus proche possible de nous ou de nous voir le plus proche possible du Saint-Père. La révérence que nous avons pour le Saint-Père est inconditionnelle. Malheureusement, sa visite ici suscite beaucoup de questions qui étaient un peu endormies. Et cette visite vient dans un moment qui n'est pas très réussi, malheureusement. Il y a la guerre contre Gaza et les conséquences. Il y a la division palestinienne. Il y a le changement du gouvernement en Israël. Il y a les problèmes internes à l'Église catholique qui se manifestent un peu trop grands. Cette compétition de dominer les uns sur les autres qui nous fait beaucoup de peine. La marginalisation de la plus grande église de Galilée est un élément très pénible qu'on n'osait pas signaler. Mais maintenant, il est tellement clair qu'on est en train de trouver une solution avec les patriarches, avec les évêques, pour que toutes les églises soient représentées durant la visite du pape. C'est pas le pape qui est le problème ici, c'est nous qui sommes les problèmes. Comment recevoir le Saint-Père? Quel rôle jouer dans la réception de cet homme de grande envergure? Ça, c'est clair.